Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le rossignol et le rovet. Au premier temps de sa vie sur la terre, le rossignol n'avait qu'un œil. Oh, avoir deux yeux ne l'aurait pas fait mieux chanter, car il chantait déjà merveilleusement bien. Mais les autres oiseaux se moquaient de lui, et cela lui causait de la peine. Ce matin-là, le corbeau lui apporte un message. Le pinson et l'alouette se marient. Il est invité aux noces. Il sera garçon d'honneur aux côtés de la fauvette. Le rossignol est ravi. Mais au fil de la journée, une tristesse s'invite dans son cœur. Je n'ai qu'un œil. Comme c'est triste. On va encore se moquer de moi. Il m'en faudrait un deuxième. Comment faire ? Quelques jours plus tard, il se pose au bord d'un fossé, pas très loin de l'arbre où il niche. Et là, dans le creux, un orvet. Vous connaissez, n'est-ce pas ? L'orvet, c'est ce serpent court, fin, luisant sous le soleil, cassant comme du verre. En ce temps-là, l'orvet, lui aussi, n'avait qu'un œil. Une idée germe dans la tête du rossignol. « Orvet, mon bel ami, je te salue. Orvet, demain je suis de noces, mais je n'ai qu'un œil, et j'en suis malheureux. Il m'en faudrait deux. Que dirais-tu de me prêter le tien ?»«
De prêter mon œil ? Il n'en est pas question, j'en ai trop besoin. »
« Orvet, demain sera un jour de grand soleil, tu vas te prélasser, tu n'en auras pas besoin. » L'orvet hésite. Ah, le rossignol est beau parleur, il promet. Orvet, je te le rendrai dès le lendemain, crois-moi. L'orvet donne son œil. Le lendemain, c'est le jour des noces. Ah, le rossignol est heureux, il chante comme jamais. La fauvette est émerveillée. Il reçoit de nombreux compliments. Les jaloux se taisent. Et les moqueurs aussi. À la fin de la fête, il s'en retourne à son nid. Il songe. Demain, il me faudra rendre l'œil. Mais j'aimerais tant voler avec la fauvette. C'est pas bien grave si je le garde un jour de plus. Alors, le rossignol garde l'œil un jour de plus. Puis un deuxième. Puis un troisième. Ce soir, dans le creux du fossé, l'orvet est en colère, de plus en plus en colère. Un peu plus tard, la nuit est tombée, dans son nid, le rossignol s'endort. Mais il perçoit une présence, il ouvre les yeux, et là, au bord du nid, l'orvet. Il sursaute, il fait un bond hors du nid. « Rossignol, rends-moi mon œil, tu avais promis !»« Orvet, mon ami, je m'y suis habitué. C'est comme ça, je ne peux pas te le rendre. »« Ah, c'est comme ça, tu ne veux pas me rendre mon œil. Alors, rossignol, fais bien attention, car je reviendrai et je le reprendrai. » Pendant ton sommeil.
Le soir suivant, le rossignol est inquiet. Il a peur de s'endormir. Alors il se met à chanter. Chanter, chanter, jusqu'à très tard dans la nuit. Jusqu'à ce que le froid, et il le sait, engourdisse l'orvet. Le lendemain, il recommence, et les jours suivants, il a tellement peur de l'orvet. Cela dure longtemps, longtemps. Jusqu'à ce soir, peut-être l'entendrez-vous. Mon histoire s'arrête ici. Vous voilà instruit. Quant à l'Orvet, aujourd'hui il a deux yeux. Comment a-t-il retrouvé un œil, puis un deuxième œil? Ça, c'est une autre histoire.
C'est l'histoire d'un comte en ville à Londres. On peut dire que l'amour va renaître des cendres. Au clocher de Big Ben, 8 heures, sur le Tower Bridge, deux hommes, very pressés, gentlemen, chapeau, parapluie, attaché-caisse, se croisent et se disent pas bonjour. Sont peut-être trop pressés. Sauf qu'un jour, il y en a un qui s'arrête et puis dit « Tous les matins à 8 heures, au clocher de Big Ben, on se croise. Vous pourriez me dire bonjour. Moi, mais pourquoi pas vous, d'abord ?» Et voilà que nos deux gentlemen se querellent pour savoir de qui le premier doit dire bonjour à l'autre. Finalement, ils décident que le premier des deux qui rendra un grand service à quelqu'un qu'il ne connaît pas, sera salué par l'autre. Et ils se quittent, sans se saluer, of course. L'homme, l'un d'eux, marche tranquillement sur le pont. Il a décidé de regarder autour de lui. En bas, la Tamise, sur le quai, un carton, sur le carton, un homme. Il s'approche de cet homme. « Monsieur, voulez-vous que je vous rende un grand service ?»« Moi ? Mais, monsieur, je ne suis rien. »« Bien sûr, il y a 3 mois, vous m'auriez rencontré. D'ailleurs, je ne serais pas ici, je serais dans mon quartier, de l'autre côté, dans le sud. » Dans ma boutique, avec mes amis, mais dans cette boutique. Elle est rentrée. Je l'ai vue. Tout de suite, j'étais attiré. J'ai eu l'impression de voir un oiseau perdu. J'ai fini de servir ma cliente, et quand j'ai relevé, j'ai voulu la voir. Elle était sortie. Sur le trottoir, personne. J'ai fait mon enquête, monsieur. « Eh bien, monsieur, cette femme, elle hait les hommes. Vous vous rendez compte, elle a mis autour de sa maison des gardiens. Impossible de l'approcher. Alors moi, j'ai essayé, mais impossible, vous dis-je. Alors, j'ai quitté le quartier, mes amis, et je me retrouve sur ce carton. Eh bien, monsieur, même sur ce carton, je pense à elle. » Seule la mort pourrait me sauver de cet amour. L'homme, pressé de rendre un grand service, demande à l'homme en carton l'adresse de la dame. Après quelques échanges, ce dernier lui donne. Alors, il traverse tout Londres. Il va dans le sud. Il s'aperçoit que les gens sont différents. Qu'ils parlent même différent, et quand on pose une question, ils répondent. Si bien que, très vite, il finit par trouver la maison de cette dame. Cette drôle de dame qui hait les hommes. Pour le gardien, quelques blagues, des tours de magie, et hop, ils trompent leur vigilance. Ils se retrouvent dans la maison, le couloir, l'escalier, la porte. Ils l'ouvrent. Une femme se lève et lui dit « Sortez, monsieur, je ne vois personne !»« Madame, je viens vous parler d'un homme qui meurt d'amour pour vous. Impossible, je hais les mâles. »« Écoutez, madame, je vais partir, mais Expliquez-moi, expliquez-moi le pourquoi. Alors la femme se lève, pousse un soupir et dit ainsi. Dans une autre vie, dans un autre pays, j'étais une colombe. J'avais un amoureux. On avait juré de jamais se quitter. Un jour que j'étais au nid, lui était parti chercher de la nourriture. La forêt s'est enflammée. Très vite, j'étais dans la fumée. J'ai appelé mon amoureux. Il n'est pas venu, le lâche. Il a préféré se sauver. Voilà pourquoi, monsieur, je hais à cause de ce drôle d'oiseau les hommes. Sortez maintenant. L'homme, pressé de rendre un grand service, remercie et sort à reculons. Très vite, il est dehors, retraverse, fait le chemin inverse et retrouve l'homme sur le carton. Lui donne quelques conseils. L'homme au carton se redresse et part très vite retrouver son quartier. Pour les gardiens, il fait quelques blagues, quelques tours de magie, il trompe leur surveillance et très vite il est dans la maison de la dame. Couloir, escalier, porte, soupir. Il entre. La femme n'a pas le temps de parler que lui commence. Dans une autre vie, dans un autre pays, j'étais une colombe. J'avais une amoureuse. On s'était juré de ne jamais se quitter. Or, un jour, que j'étais sorti, parti chercher de la nourriture, la forêt s'est enflammée. Très vite, j'étais pris dans la fumée. Impossible de retrouver le nid. Et j'ai brûlé. Et depuis, je me retrouve en homme. En homme qui tourne dans la ville, cherche la femme qu'il aime. La femme qui était debout lui dit « Ne cherche plus. Cette femme, tu l'as trouvée. Viens dans mes bras. » De l'autre côté, près du carton, il y a l'homme pressé de rendre un grand service. Il regarde le carton est vide et il sourit. Si bien que, maintenant, tous les matins à 8 heures, au clocher de Big Ben, sur le Tower Bridge, deux hommes very pressés, gentlemen, se croisent, et il y en a un qui dit bonjour à notre homme. Il l'a bien mérité, doesn't he?
Corbeau vole la lumière. Dans les temps très anciens, au début de la vie sur la Terre, un phénomène étrange s'était produit. La lumière avait disparu. Partout dans le monde, c'était l'obscurité, la nuit permanente. C'était arrivé à cause d'un vieil homme. Ce vieil homme vivait avec sa fille dans une petite maison à l'orée d'une forêt, non loin d'un fleuve. Peu avant la naissance de sa fille, il avait pris peur, peur de savoir si elle serait laide ou belle. Alors, il avait dérobé la lumière et il l'avait enfermée dans une petite boîte. Et cette petite boîte, il l'avait mise dans une autre boîte, juste un peu plus grande, qu'il avait elle aussi mise dans une autre boîte, un peu plus grande, et ainsi de suite. Des dizaines de boîtes enfermaient la lumière, et il l'avait cachée. Sa fille était née dans l'obscurité, elle avait grandi, elle s'était habituée à sa vie dans la nuit. Le temps avait passé, elle était devenue une jeune fille. En ce temps-là, Grand Corbeau existait déjà. Grand Corbeau a toujours existé et il existera toujours. Grand Corbeau, lui, était en colère, car dans l'obscurité, il se heurtait sans cesse à des obstacles. Quand il volait, quand il marchait, et il peinait à trouver sa nourriture. Ce matin, il arrive à proximité de la petite maison. Il se pose sur le toit, puis sur le rebord de la cheminée. Par le conduit, il entend une petite voix qui monte et qui chantonne. « J'ai une boîte, à l'intérieur se trouve la lumière du monde, personne ne le sait. J'ai une boîte, des dizaines de boîtes cachent la lumière. » La lumière du monde, ici, sous ce toit. Aussitôt, grand corbeau se met à épier les allées et venues des habitants de la petite maison. Un peu plus tard, il entend le vieil homme et sa fille qui sortent. Le vieil homme porte un panier, il part en direction de la forêt pour y ramasser du bois. La jeune fille porte un seau et va au fleuve pour y puiser de l'eau. Vite, grand corbeau s'envole vers le fleuve. Arrivé au-dessus de l'eau, il se transforme en une toute petite aiguille de pin et se laisse tomber dans le courant. La jeune fille arrive, elle plonge son seau dans l'eau, le remonte avec la petite aiguille de pin. Elle dépose le seau sur la berge. Grand corbeau a aussi le pouvoir de rendre assoiffée la jeune fille. Alors, de ses mains, elle forme une coupe et elle recueille une gorgée d'eau puisée dans son seau. Puis une deuxième gorgée, puis une troisième. Et elle avale la petite aiguille de pin qui va se nicher au fond de son ventre douillet protecteur. Des semaines passent. Le ventre de la jeune fille s'arrondit. Des mois passent. Et vient le moment où elle donne naissance à un petit garçon. Bien sûr, le vieil homme se rend compte de la présence de ce nouvel habitant dans la maison. Maintenant, il est grand-père. Il fabrique des jouets à son petit-fils. Il s'amuse avec lui. Il se réjouit d'entendre ses babillages. Il est agacé quand il entend ses cris perçants. Car ne l'oubliez pas, le petit garçon est Grand Corbeau. Grand Corbeau qui veut trouver la lumière. Dès qu'il se met à marcher, le petit garçon furette partout dans la maison. Il cherche. Un après-midi, pendant que son grand-père somnole dans son fauteuil, il trouve une boîte nichée dans le creux d'un mur. Il la prend et s'assied. Il ouvre la boîte. Il en sort une boîte, un peu plus petite, qu'il ouvre, et encore une boîte. Dans la pièce voisine, le grand-père perçoit des bruits. Il devine ce qui se passe. Il se lève, se précipite auprès de son petit-fils, il le réprimande, il reprend les boîtes, le petit garçon pleure. Le lendemain, le petit garçon revient auprès de son grand-père. « S'il te plaît, grand-père, ouvre-moi encore une boîte, s'il te plaît !» Le grand-père refuse. Le petit garçon lui dit des mots gentils, lui adresse des cajoleries. Alors vous savez comment sont les grands-pères? Il cède. Il ouvre une boîte, puis une deuxième, puis une troisième. Enfin, il gronde. « Bon, maintenant, ça suffit !» Le jour d'après, le petit garçon revient à la charge. Le grand-père cède. Alors vous vous en doutez? Peu à peu, il ne reste plus que quelques boîtes. À travers leurs parois, une lueur passe. « Grand-père, s'il te plaît, montre-moi la lumière !» s'écrie le petit garçon. Le grand-père, tendre, ouvre une boîte, puis une deuxième, puis la dernière. Il saisit dans ses mains la boule de lumière et la lance en direction de son petit-fils. C'est alors qu'il voit sur le visage de l'enfant un bec noir qui s'ouvre et attrape la boule de lumière. Sur le corps de l'enfant, des plumes noires se répandent et dans son dos, des ailes se déploient. Frrrt ! Il s'envole par le conduit de la cheminée. Dehors, Grand Corbeau vole heureux. Il voit enfin le contour des montagnes, le dessin des arbres, la rivière qui scintille. Il ne voit pas dans le ciel l'aigle qui lui voit sa proie. L'aigle pique droit sur Grand Corbeau. Grand Corbeau fait un brusque écart, il échappe au cerf de l'aigle. Mais dans cette bousculade, il ouvre son bec et un morceau de lumière tombe sur un rocher. Il éclate en des centaines de petits morceaux et un autre plus gros. Il monte dans le ciel. C'est depuis ce temps-là que nous pouvons voir la nuit, les étoiles qui scintillent et la lune qui luit. L'aigle poursuit Grand Corbeau qui s'enfuit en direction de l'est. Il arrive au bord du monde, épuisé, haletant. Il ouvre le bec et dépose le dernier morceau de lumière sur un lit de nuages. Les nuages montent dans le ciel, haut, très haut. Des rayons de lumière passent par-dessus des montagnes, des prairies, des villes, des villages. Des rayons de lumière arrivent à la petite maison située à l'orée d'une forêt, non loin d'un fleuve. Le vieil homme est sur le pas de sa porte. La lumière se fait devant lui. Il tourne sa tête et son regard en direction de sa fille. Elle est assise sur un rocher. Elle est aussi belle qu'un bouquet de fleurs des champs au printemps.
Bonheur, malheur. C'est l'histoire d'un homme. Au village, on l'appelle le fils, depuis que son père est décédé et qu'il a repris la ferme. Le fils, il a une passion, son cheval. Ce matin, il sort, il va dans l'enclos, pas de cheval. Une des barres est tombée. Oh ! Le fils s'inquiète pas. Il rentre. Il se sert un bol de café. On frappe. C'est le voisin. Il rentre. Eh, dis-moi, t'as vu dans l'enclos ? Le cheval est parti, disparu. Oh, quel malheur! Alors le fils continue de boire tranquillement son café. Il fixe le voisin et au bout d'un long moment, lui dit « Quel malheur! Mais qu'en sais-tu ? » En effet, le lendemain, le fils se lève tôt. Il part dans la forêt rechercher son cheval, une clairière, deux. Dans la troisième, c'est pas un cheval, c'est deux chevaux. Son étalon avait fait une conquête, une jolie jument arabe. Et ils étaient tellement bien ensemble que le fils a ramené en l'enclos les deux chevaux. Et puis, il est allé à la cuisine boire un bol de café. On frappe. C'est le voisin. Il rentre et dit « Dis-moi, alors hier t'avais pas de cheval. Aujourd'hui t'en as deux. Wow, mais quel bonheur !» Le fils continue de boire son bol de café. Tranquille, paisible. Il fixe le voisin et au bout d'un long moment, lui dit « Quel bonheur ! Qu'en sais-tu ? Eh oui ! » Le lendemain, il fallait apprendre les bonnes manières à la jument. Lui apprendre à trotter, à marcher. Eh bien, au moment où le fils était sur la jument fait un volte-face, une ruade, le fils part en l'air et il fait un double saut périlleux arrière et retombe sur le pied, en torse. Téléphone, ambulance, hôpital, radio, plâtre. Réambulance, maison, cuisine, café. On tape, à la porte. C'est le voisin. C'est le voisin qui rentre. Il regarde le fils, il regarde le plâtre, il regarde le fils. Oh, quel malheur! Le fils, il continue de boire tranquillement son bol de café. Et puis, au bout d'un long, long, long moment, quel malheur! Qu'en sais-tu? Eh oui, en effet. Le lendemain, le pays était en guerre. Les sergents recruteurs étaient dans la ville. Ils passaient, ils cherchaient des hommes, des jeunes, pour faire la guerre. Et ils étaient dans la cuisine. Ils regardaient le fils. Ils regardaient le plâtre. Un plâtre sur un champ de bataille. Ça fait des ordres. Bof, l'ami. Tu la feras pas, celle-ci, va. Il y en aura d'autres. Et les sergents recruteurs sortent. Et qu'est-ce qu'ils croisent? Ils croisent le voisin qui rentre et qui dit « Waouh ! Dis-moi, tu vas pas la faire, la guerre ? Oh, mais quel bonheur !» Et le fils, il continue de boire tranquillement son café. Il regarde son voisin et au bout d'un long, long, long moment, il lui dit « Quel bonheur ! Qu'en sais-tu ? Eh oui, en effet, le lendemain. Quel bonheur ou quel malheur ? Qu'en savons-nous ?